BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
L'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. Les crypto-monnaies, la blockchain en détiennent une fraction de notre avenir probablement. Claire Balva est avec nous pour en parler, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Bonjour Claire.
Bonjour.
Owen Simonin avec nous aussi à la tête de Just Mining. Bonjour Owen.
Bonjour.
On est ravis de retrouver à distance et sa chaîne YouTube, bien sûr, Hacheur, avec un H au début. Puis bien sûr, Vincent Gann qui nous accompagne donc pour TradingView France aujourd'hui. On le disait, sur les cryptos, c'est compliqué. Le cours du Bitcoin, Vincent, a rebondi de près de 80% depuis son plus bas estival de la mi-juillet. La capitalisation boursière totale crypto était revenue il y a quelques jours au-dessus des 2000 milliards de dollars. Et puis, depuis mardi, c'est à nouveau plus compliqué. On a une correction qui se confirme aujourd'hui. Quel message l'analyse technique nous envoie sur le potentiel moyen terme des cryptos et surtout du Bitcoin?
Oui, alors déjà, bonjour Claire et Owen. Vous avez très bien fait, Guillaume, de rappeler le contexte. Depuis mardi, il y a eu une séance de liquidation sur le marché des cryptos, de forte baisse, à nouveau moins 10. Mais déjà, il faut arriver à la situer, cette séance. Depuis le 20 juillet jusqu'à peu près fin septembre, le marché crypto a fortement monté. Le cours du Bitcoin a dû prendre 80% depuis ses plus bas. Si vous prenez justement, vous venez d'en parler, la capitalisation boursière totale, elle est presque revenue fin août, début septembre, au niveau de son record historique. Donc déjà, ce n'est pas illogique d'avoir une phase de prise de profit après un tel moulement. Bon, c'est toujours facile de dire ça après coup. Autre chose, le cours du Bitcoin a atteint, c'était aussi début septembre, la zone des 52 000, 53 000 dollars. Lorsque vous regardez le spectre des positions ouvertes, du volume, pour parler simplement, qui s'est fait dans la phase corrective, celle du printemps dernier, il y a une grosse zone d'intérêt vendeur justement qui se trouve entre ces 53 000 et ces 60 000 dollars. Donc elle a agi, elle a produit son effet baissier. Et puis mardi, c'est aussi un choc de liquidité puisque voilà, des paquets d'ordres, stop de protection, traders particuliers ont pu être déclenchés, etc. Donc maintenant, la vraie question pour terminer sur ce sujet, est-ce que ce qui s'est passé mardi, c'est à nouveau l'entrée dans une phase de chute comme on a eu au printemps, ou est-ce simplement un choc isolé, petit choc de liquidité? Et derrière, on repart en avant. C'est la question que tout le monde se pose. Moi, je termine sur ce sujet technique en disant que c'est une zone très large, 40 000, 45 000 dollars. Il faut la tenir, cette zone. Et c'est la zone de prix au-dessus de laquelle je considère que pour le moment, ça reste un choc isolé de liquidité.
Pour le moment, donc à vos yeux, à 45 200 dollars en ce moment, pour l'instant, on est encore sur un choc de liquidité limité sur le Bitcoin. Ce sont quand même les traders pros qui font le marché du Bitcoin. Ils en ont vu des vertes et des pas mûres depuis le début de l'année, avec un gros trou d'air au printemps, un trou d'air un peu plus léger, mais quand même notable depuis le début de la semaine. Est-ce que ces traders pros sont toujours autant exposés à l'achat sur les cryptos?
Alors, faites très bien souligner aussi ce sujet. La différence majeure entre la hausse des cryptos depuis 2020 et celle, par exemple, de fin 2017, c'est la présence des institutionnels. En 2017, ça avait été essentiellement fait par les traders particuliers. Maintenant, il y a les deux catégories qui jouent ensemble, entre guillemets. Alors, ils investissent via des contrats à terme, des contrats futurs, des contrats d'options, des fonds. Je parlais tout à l'heure d'ETF, c'est beaucoup d'ETF systématiques sur les cryptos. Globalement, les asset managers sont net acheteurs. Les traders institutionnels à fort effet de levier, c'est très variable. Ça tourne autour des 50%. Alors, comment ils se projettent? Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je regarde la façon dont ils investissent sur, vous savez, le marché des options, les options Bitcoin. Donc forcément, il faut savoir se projeter sur une échéance et un prix d'exercice. Globalement, d'ici la fin de l'année, il reste la grande majorité d'entre eux optimistes. En tout cas, c'est la vision des choses là à un instant T.
Ça reste quand même tout ça très volatile. Alors, on rappelle quand même que depuis le 1er janvier, la perf du Bitcoin reste largement positive, même s'il y a eu bien sûr des hauts et quelques bas. Mais cette volatilité reste spectaculaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle se réduise un jour à long terme? Est-ce que le Bitcoin un jour pourrait devenir aussi peu volatile que l'euro ou le dollar?
Alors c'est vrai qu'à une époque où là, certains pays commencent à adopter le Bitcoin, on peut se poser la question. C'est pas une monnaie comme les autres. Jamais le Bitcoin dollar n'aura la même volatilité que l'euro dollar, tout simplement parce que l'euro dollar, c'est sur le marché d'échange flottant, c'est la formation des prix, c'est le carnet d'ordre interbancaire. Voilà, c'est les banques, les gros ordres des banques. Ça n'existe pas sur le marché des cryptos. Donc jamais le Bitcoin n'aura une volatilité aussi faible que sur le cours de l'euro dollar. Et ça va prendre encore beaucoup de temps pour que ça change.
Ben voilà ce qu'on pouvait dire. On rappelle qu'il ne faut investir sur les crypto-monnaies que l'argent que l'on est prêt à perdre. C'est bien sûr de l'ultra-diversification. Cette semaine restera gravée à jamais dans la mémoire des fans de Bitcoin. Le Salvador a mis en place l'intégration du paiement en Bitcoin. C'était mardi dernier, le 7 septembre. Plus personne, aucun commerçant, aucune administration au Salvador ne peut refuser le Bitcoin. La France a le Bastille Day le 14 juillet. Le Bitcoin a aussi désormais sa fête nationale le 7 septembre. Bitcoin Day, c'est comme ça qu'on l'appelle le 7 septembre. C'est donc la date où le Salvador l'a intégré dans son système de paiement. Comment s'est passée cette intégration claire du Bitcoin comme monnaie officielle ?
Alors, on voit beaucoup de positifs, hein, malgré le traitement un peu négatif hein, qui est fait dans la presse française, je trouve. On voit déjà qu'un certain nombre d'enseignes se sont vite adaptées. Alors, les plus visibles, ça a été McDonald's, ça a été Starbucks. McDonald's a annoncé un partenariat avec OpenNode, ce qui leur permet d'accepter les paiements en Bitcoin très facilement. Starbucks accepte aussi le Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, on a vu des posts sur les réseaux sociaux de plein de gens qui disaient « Ah, je suis au McDo, je suis au Starbucks, je peux enfin payer en Bitcoin. »
Wow.
Donc on voit que tout ça finalement fonctionne et surtout on se rend compte que les multinationales vont être obligées d'accepter Bitcoin comme moyen de paiement, en tout cas toutes celles qui ont des activités au Salvador. Donc ça peut faire boule de neige, même dans le monde, je dirais, corporate traditionnel. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit aussi beaucoup de gens qui se réjouissent de l'absence de frais pour les transactions en Bitcoin, qu'ils soient à l'étranger ou même au sein du pays. Et donc, on a vu beaucoup de vidéos, beaucoup de posts circuler sur les réseaux sociaux de ces personnes qui disaient « Mais regardez, j'envoie du Bitcoin à mon ami qui est au Salvador et j'envoie tout ça sans frais, contrairement aux applications classiques qu'ils utilisaient auparavant. »
Donc plutôt un good buzz, même si dans la presse française, vous estimez que le buzz a été plutôt négatif autour de cette intégration du Bitcoin au Salvador.
Bah, en tout cas, les articles de presse que moi j'ai pu lire, effectivement, étaient assez sceptiques, aussi parce que de grandes organisations internationales ont exprimé leur scepticisme sur cette initiative.
Justement, il y a aussi des points négatifs malgré tout dans la façon dont le Bitcoin s'est intégré au Salvador et est devenu l'une des monnaies officielles du Salvador cette semaine, Owen.
Tout à fait. Ben déjà, on le sait, on l'a rappelé, les gens le savent, notamment au Salvador, le Bitcoin est volatile et manque de bol, le jour où l'application publique pour accepter le Bitcoin sort, le Bitcoin perd 16% dans la journée. Déjà, ça donne un arrière-goût à cette technologie, à ceux qui la découvraient pour la première fois. Mais au moins, les bases sont posées pour tout le monde. La deuxième chose, c'est également le fait que l'application, donc le portefeuille du gouvernement, que le gouvernement propose à ses citoyens, le portefeuille Chivo, a été retiré de l'Apple Store et des différents sites pour le télécharger parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de serveurs informatiques. Il y a eu une trop grosse demande et ils n'ont pas réussi à maintenir cette forte demande. On rappelle quand même que l'IMF avait refusé de fournir une aide à l'intégration du Bitcoin dans ce pays. Ça restera quand même une journée historique parce qu'on a le président qui a quand même tweeté avoir acheté des Bitcoins. Et de la même façon, c'est l'un des premiers présidents à avoir dit sur les réseaux sociaux quand la crypto-monnaie perdait de la valeur, eh bien, c'est juste une occasion d'en racheter un petit peu plus. Wow. Et ça a choqué le monde de la crypto-monnaie.
Ah oui, on l'imagine. Intéressant tout ça, 7 septembre, hein, le Bitcoin Day. Alors, il n'y a pas que le Salvador qui s'intéresse au Bitcoin, il y a beaucoup d'autres États. Le Panama a fait un pas important cette semaine, il a décidé lui aussi d'émettre un texte de loi visant, clair, à implémenter les crypto-monnaies et pas que le Bitcoin.
Oui, c'est ça. Alors, on se rend compte que ça fait un peu tache d'huile en Amérique latine et qu'on voit un certain nombre de politiciens. Alors là, au Panama, c'est un député indépendant qui a déposé un projet de loi. Donc, ça reste au stade de projet.
Ah oui, mais embryonnaire encore quand même.
Bah, c'est embryonnaire, mais déjà, le simple fait qu'il y ait des projets dans tous ces pays-là, des projets de loi, c'est quand même un grand pas. Et donc là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas, on va pas mettre Bitcoin comme monnaie légale. On va proposer une forme de cadre et on va apporter de la sécurité juridique et fiscale aux entreprises et aux consommateurs autour des crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas que Bitcoin. Il y a plusieurs actifs qui sont cités. Il y a Bitcoin, il y a l'Ether, il y a Elrond, il y a l'USDT. Enfin, il y en a plusieurs. Et donc, l'idée, c'est de permettre tout simplement d'utiliser toutes ces crypto-monnaies comme moyen de paiement aux côtés, encore une fois, du dollar américain qui est aussi utilisé dans le pays.
Ouais, le coup de chapeau du Panama donc aux crypto-monnaies. En tout cas, ce texte de loi, on va voir si ça avance. Mais la brèche s'élargit.
Si ça passe. Voilà, c'est loin d'être fait encore, mais c'est un pas positif.
Et on voit que pendant que ça avance dans l'univers crypto, que l'acceptation des cryptos comme monnaie officielle devient réalité, il reste néanmoins quelques controverses. Certains acteurs des cryptos restent sujets à caution, même Coinbase. Coinbase, c'est la base, l'exchange majeur qui a fait son introduction en bourse au mois d'avril. Eh bien, Coinbase, mesdames, messieurs, Coinbase se fait attaquer par le gendarme des marchés américains, la SEC, qui poursuit en justice Coinbase pour son nouveau produit de lending. C'est quoi le lending, Owen? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle du lending de Coinbase?
Alors, quand on parle de lending ou de borrowing dans le monde des crypto-monnaies, on parle de DeFi, de finance décentralisée. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, il n'y a donc pas de tiers de confiance, il n'y a pas un organisme, un gouvernement ou une banque qui gère ces systèmes, c'est bel et bien la blockchain, donc c'est totalement décentralisé. C'est-à-dire que quand il y a des systèmes de prêts et d'emprunts, ce sont des particuliers qui vont se prêter et qui vont emprunter entre eux de la crypto-monnaie. L'offre de lending de Coinbase était une offre qui allait permettre de faire dormir ces crypto-monnaies sur un protocole de finance décentralisée ou de finance centralisée, puisque Coinbase étant une entreprise, ils peuvent eux-mêmes proposer des systèmes de prêts et d'emprunts et de rémunérer les utilisateurs qui bloquent leur stablecoin ou leur crypto-monnaie sur la plateforme.
Et pourquoi cette technique, le lending dont on parle actuellement, intéresse autant les utilisateurs crypto? Est-ce qu'il y a des points auxquels il faut faire particulièrement attention? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant cet après-midi puisque Coinbase fait l'actualité autour de son activité de lending?
Alors déjà, sur le fait que Coinbase fait l'actualité, c'est parce qu'aux États-Unis, c'est pas réglementé de la même façon qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on considère que certaines solutions de lending et de borrowing sont des solutions de security token. Et en gros, doivent être régulées comme des securities avec un autre cadre juridique que celui qu'on a par exemple en France, où on va considérer ces crypto-monnaies comme des crypto-actifs et non pas comme des securities. C'est pour ça que ça a fait du bruit autour de Coinbase, alors qu'en Europe, notamment, il n'y a pas ces problèmes-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le risque quand on va directement faire du lending et du borrowing dans la blockchain. Alors déjà, je le rappelle, hein, on peut faire de la finance décentralisée quand on dialogue avec la blockchain. Mais il y a des entreprises centralisées qui proposent de faire ça. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'on va faire du prêt et de l'emprunt qu'on va s'adresser à la blockchain. On peut également le faire vis-à-vis d'entreprises qui proposent ça de façon centralisée avec les crypto-monnaies. Quand on s'adresse à la blockchain, ce qui est intéressant, c'est les rendements. Aujourd'hui, il n'est pas très compliqué de sortir entre 8 à 12% d'intérêt par an sur des monnaies stables, donc des crypto-monnaies adossées au dollar, par exemple. Ça paraît fou, mais quand on connaît la technologie de la blockchain et sa forte croissance, il y a tellement de besoins de liquidité qu'il est très facile de prêter sa crypto-monnaie et de la laisser dormir à ces taux d'intérêt. La particularité, c'est comme ces protocoles sont jeunes, forcément, toute nouvelle technologie comporte un risque. Il peut y avoir des hacks, il peut y avoir des problèmes, et c'est pour ça qu'on recommande très fortement non seulement de se renseigner, on ne le dira jamais assez. Deuxièmement, de se rappeler qu'il y a toujours un risque, même dans ces technologies, et même si on sait qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup avec la crypto-monnaie, il faut se renseigner en amont, et on a aujourd'hui de quoi tomber facilement sur de la documentation qui nous permet de comprendre comment ça marche, où est le risque et comment ça fonctionne concrètement. Et pour finir, se diriger vers des protocoles. Les plus connus, c'est AAV ou c'est encore Compound, qui sont des protocoles qui ont déjà 20, 30 milliards de dollars déposés sur le protocole et qui existent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui permet d'avoir un peu plus de recul sur cette technologie et ne pas se jeter sur le premier protocole qu'on a vu apparaître sur sa page Google.
Voilà, le lending décrypté, donc grâce à Owen et sa capacité didactique dont il nous fait profiter chaque vendredi dans les pros des cryptos. Coinbase, en tout cas, à maille avec le d'armes des marchés américains. Et pendant ce temps, d'autres plateformes d'exchange, d'échange de crypto en profitent et montent en puissance, poussent leurs pions. On va en parler. D'abord ici, qui joue au baseball? Claire, vous jouez au baseball?
Ah, pas du tout.
Vincent, vous jouez au baseball?
Pas du tout.
Non. Et Owen? Non plus. Bon, à défaut d'y jouer, qui regarde le baseball à la télé? Vous regardez le baseball,
Claire? Même pas. J'ai honte, mais même pas.
On est très français autour de cette table. Vincent non plus.
Voir un match,
vous êtes... Oui, bon, vous en avez vu un dans votre vie, d'accord. Personne ne joue au baseball, personne ne regarde autour de cette base, de cette table, le baseball. Mais ça tombe bien parce que c'est de basket qu'on va parler. Stephen Curry, vous le connaissez, lui? C'est un champion de basket, figurez-vous. Et là, vous vous dites, et alors? Eh bien, c'est une star aux États-Unis. Et il a tweeté récemment, je commence le crypto gain, avez-vous des conseils? Une star qui dit s'intéresser aux cryptos, déjà, ça a titillé la communauté. 15 heures plus tard, le même Stephen Curry a annoncé qu'il participerait en tant qu'actionnaire à la plateforme d'échange de crypto FTX. Il en est désormais donc actionnaire et partenaire de long terme. L'implication de ce joueur star, là-bas on le disait aux États-Unis, et plus largement des superstars, devient quelque chose d'assez fréquent pour les plateformes d'exchange. Une opportunité véritablement importante. L'implication de ces superstars, c'est un phénomène... On va dire structurel, important, qui fait partie peut-être presque de l'ADN, la montée en puissance des plateformes d'échange de crypto.
C'est une stratégie comme une autre, mais effectivement, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante quand on veut rendre la crypto un peu plus mainstream. On disait tout à l'heure que toute cette première partie, en tout cas du bull run, a été drivée par des institutionnels, par des entreprises, par des gestionnaires d'actifs qui ont acheté de la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, forcément, les plateformes, elles cherchent aussi à atteindre les particuliers. Et donc, pour ça, elles cherchent des relais, elles cherchent des ambassadeurs. Et donc, les ambassadeurs, ça va être notamment des stars, ça va être des sportifs, ça va être des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Mmh. Et donc, forcément, quand on voit une star qui s'intéresse un petit peu aux cryptos, c'est une cible pour ces plateformes qui vont se dire venez chez nous, regardez, on va vous donner des bonus, on va vous donner des parts, on va vous montrer à quel point on est géniaux. Et puis derrière, ça va inciter ces influenceurs-là à relayer le message auprès de leurs abonnés. Et donc, ça fait de l'audience pour ces plateformes et donc des acheteurs.
Bon, on m'a quand même appris quand j'étais petit que ce qui éblouit aveugle et qu'il faut savoir se méfier. Les autres plateformes d'échange de crypto ont une autre stratégie pour se faire connaître, se faire aimer, grandir. Certaines proposent de nouveaux services. On pense à Binance, de la régulation, Coinbase et puis des partenariats Crypto.com, FTX. Est-ce qu'il y a une stratégie qui vous semble meilleure qu'une autre pour se faire connaître, se faire aimer et grandir quand on est une plateforme d'exchange?
Alors, ça dépend par qui on veut se faire aimer, j'ai envie de dire. Si on veut se faire aimer par le régulateur, la bonne stratégie, c'est de faire ce que le régulateur demande. Et donc, par exemple, Coinbase a eu cette stratégie-là. Alors, on voit récemment qu'ils ont eu quelques petits soucis, mais globalement, ils avaient une stratégie, je dirais, orientée vers le régulateur, ce qui n'était pas le cas de Binance, qui se sont plutôt développés en targetant les crypto-traders, et donc qui ont listé beaucoup de cryptos différentes, listé beaucoup de tokens, qui ont créé beaucoup de fonctionnalités, et ça leur a permis d'atteindre le plus gros volume qui est aujourd'hui sur les plateformes crypto. Donc c'est une stratégie intéressante aussi, mais on voit qu'ils sont en train de faire un petit peu machine arrière parce que ça, ils n'ont pas fait ami-ami avec les régulateurs et ça leur pose désormais problème. Donc là aussi, cette stratégie, elle a ses propres inconvénients. Et puis la stratégie des plateformes FTX ou Crypto.com, qui j'ai vu a même fait un partenariat avec le PSG dans les derniers jours, elle a ses avantages parce que vous allez atteindre assez vite des particuliers. Mais finalement, votre audience est très spécifique et très dépendante, quelque part, de ces stars aussi.
Oui, et de leur performance plus ou moins bonne, aussi volatile que le Bitcoin. Hein. Bon, voilà. Méfiez-vous des miroirs aux alouettes, hein, vous qui nous suivez. Et on le disait, ce qui éblouit peut parfois aveugler. Tiens, Kim Kardashian, qui fait face d'ailleurs, ça tombe bien ou mal pour elle, à une investigation pour la promotion d'une arnaque crypto. Pourquoi c'est intéressant pour certaines de ces stars? Pourquoi c'est si intéressant de faire la promotion de ces projets?
Pour la rémunération, tout simplement.
C'est... Ah oui.
Alors, bon. Je suis pas dans la tête
pas
de
du gain,
je ne suis pas dans la tête de Kim Kardashian, mais je doute très fortement qu'elle connaisse le projet qu'elle a promu. Ouais. Donc effectivement, c'est l'argent, mais ces stars promeuvent pas seulement de la crypto, mais aussi d'autres types de produits. La rémunération qu'elles touchent est proportionnelle à leur audience. Donc, comme Kim Kardashian, vous avez 250 millions d'abonnés, eh bien, vous pouvez toucher plusieurs centaines de milliers de dollars pour un simple post Instagram. Donc, forcément, c'est une rémunération qui est extrêmement intéressante. D'autant plus qu'on est dans une phase où la crypto est beaucoup montée et donc où certains projets ont beaucoup d'argent à dépenser pour leur propre promotion. Donc oui, l'intérêt pour ces stars, c'est clairement la rémunération.
Oui, elles y trouvent un effet de levier, comme on dit, sur les marchés. Est-ce que ce genre de promotion, c'est quelque chose de courant dans le monde de la crypto, Owen? Vous regardez ça également?
Alors tout à fait. Ce qu'il faut comprendre dans le monde de la crypto-monnaie, c'est que le sponsoring rapporte très gros. Comme ce sont des services financiers directement, hein, parce qu'on ne venait pas là pour vendre un produit indirect ou un service, on est carrément là pour mettre en avant des produits financiers. Et donc, quand on a une grosse audience, ça peut apporter de très très gros flux. Naturellement, des arnaques qui vont dépenser un, quel que soit ce vrai montant, mais qui vont récupérer 10, ils peuvent très bien dépenser 1000, 10 000, 100 000, sans compter, sans aucun problème. Ça, c'est un fait et c'est propre au monde de la crypto-monnaie. Le problème vient du coup dans ce fameux terme, chiller, c'est quand on a conscience que quelque chose n'est pas sérieux et qu'on va quand même le présenter. C'est-à-dire quand globalement on a un manque de compréhension sur ce qu'on présente, ou alors quand il y a de la mauvaise volonté, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment confiance en ce produit et confiance en cette solution, mais parce qu'on a été rémunéré, on le présente. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui réalisent ce genre de choses ne découvrent qu'après que ce n'est qu'une arnaque. C'est pour ça que les influenceurs dans le monde de la crypto-monnaie doivent faire très attention et avoir des diligences très profondes sur le projet qu'ils vont présenter, parce que c'est un risque. Naturellement, comme ces projets ont des budgets illimités, des influenceurs qui vont avoir l'habitude, par exemple, de prendre 3 à 4 000 euros pour un poste, peuvent aller à recevoir des offres en allant de 50 à des fois 500 000 euros pour certaines publications, car les projets, sachant qu'ils vont récupérer énormément plus de valeur, sont prêts à dépenser des sommes totalement folles.
Oui, c'est ce qu'on a vu sur, par exemple, Save the Kids, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, ça a été du coup différents influenceurs qui ont mis ça en avant aux États-Unis. Encore une fois, le problème dans ces histoires-là, c'est qu'il y a eu un conglomérat d'influenceurs et que tous ces influenceurs n'étaient pas au courant. Et donc, il y a eu un mouvement avec certains influenceurs qui savaient très bien ce qu'il y avait derrière, mais qui, eux, ça les dérangeait pas du tout de courir un risque, vu les rémunérations, et d'autres qui se sont laissés du coup amener dans cette histoire et qui ont simplement voulu suivre leurs collègues, mais qui du coup se sont retrouvés dans la même tornade qu'eux pour évidemment beaucoup moins d'argent. Et c'est ça la particularité, ça arrive, hein, même quand on fait attention, il y a tellement de nouveaux projets, et c'est comme quand on présenterait des startups, on prend un risque, on sait très bien que certaines startups peuvent mourir. Par contre, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est déjà plus rare, mais certaines startups peuvent partir avec la caisse. Là, c'est déjà un autre type de risque. Mais le risque final, c'est vraiment l'arnaque, un projet qui propose par exemple 1, 2, 3% d'intérêt par jour, et on en a connu en 2016, notamment avec le fameux BitConnect, qui faisait le tour des influenceurs, et qui proposait par exemple entre 250 000 et 1 million d'euros pour une mention sur YouTube, pour vous dire à quel point ça allait loin. Mais à partir du moment où c'était rentable pour la plateforme, elle faisait le tour des influenceurs et tous ceux qui le voulaient pouvaient mettre en avant cette arnaque.
Ce qui éblouit aveugle. Tiens, justement, les cryptos, on parlait des cours du Bitcoin, on est à 45 000 $ aujourd'hui, 10 septembre. C'est compliqué, hein, séance compliquée, journée compliquée pour les fans de Bitcoin. Pour l'Ethereum, ça n'a pas l'air tellement mieux. Vincent est toujours avec nous. Vincent Gann, l'Ethereum, là je le regarde en direct, 3 248 $. C'est une baisse pour l'Ethereum de plus de 5%. Là, voilà.
Le mot de la fin technique, essayez à tenir 40 000.
La patate chaude, c'est pour vous. Voilà.
Alors voilà, alors 40 45 000 à tenir sur le Bitcoin, et j'espère que ça va tenir. Pour l'Ether, c'est 3 000. C'est vraiment les seuils à tenir. Et idéalement, la semaine prochaine, on se stabilise dessus et on écarte comme ça le scénario d'une réplique baissière. Mais bon, c'est fragile, donc soyons prudents.
Prudence et mère de sûreté. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Vincent Gann pour TradingView France, Claire Balva pour KPMG et Blockchain Partner. Voilà, Claire, bien sûr, à nos côtés chaque vendredi. On vous remercie, Claire, de venir nous rendre visite chaque semaine. Owen Simonin également avec nous, bien sûr, sa société Just Mining et bien sûr sa chaîne YouTube. Combien d'abonnés, Owen, sur votre chaîne Hacheur?
376, mais wow. Ça va très vite en ce moment.
Ah oui, ça va.
376 000.
Oui, voilà, j'allais dire, ça a baissé. J'allais dire. 376 000, ben voilà. Merci beaucoup à tous les trois de nous accompagner, les pros des cryptos. C'est chaque vendredi. Bon week-end à tous les trois. Le CAC 40 est toujours assez hésitant. On va débriefer cette séance boursière. On recule d'ailleurs désormais de 0,4% à Paris, 6 657 points. Le club à suivre dans une poignée de secondes juste après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.